point de repère.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux pour une nouvelle émission Point de repère, consacrée comme chaque mois en première semaine aux autres spiritualités. Cette émission est produite, vous le savez, par le CRR, le Centre de recherche et de rencontre de la rue Puisansoc à Liège, en Outre-Meuse. Depuis plus de 30 ans, le CRR œuvre au dialogue interreligieux et interconvictionnel. Et aujourd'hui, nous allons aborder une image, l'image du centre vide, une image qui nous vient du grand Avicenne, ce médecin, philosophe, poète iranien qui est mort au début du XIe siècle de l'ère chrétienne. Une image, et non pas un concept. Une image parce que nous voulons être proches de l'expérience de la vie. Une image qui nous emmène vers l'expérience. Et vous avez compris que cette émission sera peut-être très sérieuse, mais en tout cas pas spéculative. Cette image, l'image du centre vide, a fait les beaux jours du dialogue interreligieux au CRR, au temps où Hans Missen et Ahmed Mahfoud animaient le bien nommé Institut du dialogue. Hans Missen nous a quittés il y a plusieurs mois déjà. Cette émission est donc dédiée à sa mémoire. Et aujourd'hui, pour parler du centre vide, nous avons invité Jean-Mathieu Loctaine. Bonjour.
Bonjour.
Avant d'aborder le centre vide, disons quelques mots de vous, de votre parcours, de votre terrain. Vous êtes jésuite, prêtre, curé au béguinage à Bruxelles et enseignant. Mais peut-être souhaitez-vous préciser un petit peu cette présentation.
Oui, je suis curé du béguinage depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans. Et j'ai fait ma vie autour de l'idée de l'enseignement de la morale des affaires, morale sociale, plutôt morale des affaires. Et j'étais pendant plusieurs années chef d'entreprise aussi d'ailleurs, pour en quelque sorte éprouver ce qu'il s'agissait de dire à partir d'un laboratoire dans lequel je travaillais. J'étais moi-même donc responsable d'une petite entreprise et de plusieurs petites entreprises sociales.
Vous êtes donc un homme d'expérience, un homme de terrain, au terrain vraiment très varié. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc le centre vide. Voilà quelque chose qui paraît un peu abstrait, qui paraît un peu énigmatique. Qu'est donc le centre vide ?
Il faut savoir, c'est une image, bien sûr, mais qui vient d'une expérience et d'une volonté de répondre à des questions. Quand nous avons commencé à réfléchir avec le groupe Avicenne, nous nous sommes tout de suite rendus compte qu'on ne pouvait pas parler des problèmes européens sans en parler avec tout le monde. Donc Avicenne est un groupe qui est né dans le sillage de l'initiative de M. Delors, qui avait proposé dans Une âme pour l'Europe de relancer ou de lancer une réflexion sur les valeurs, sur l'âme de l'Europe. Et donc nous avions commencé en disant qu'est-ce qu'il faut penser de cela, et nous avions centré après un premier brainstorming, une première rencontre autour des questions de l'État, de la culture, des relations internationales et de l'économie dans l'Europe. Et donc, très vite, nous avons constitué un groupe qui rassemblait les différentes opinions. Et donc, ce n'était plus du tout interreligieux, au sens où on avait bien sûr un contact avec les musulmans, les juifs et les chrétiens des diverses famille, mais on avait aussi contact avec les laïcs ou avec ceux qui ne se revendiquent pas d'une religion. Et c'est pour ça qu'on a un peu forgé le mot interconvictionnel à l'époque pour pouvoir englober tout le monde. Si on veut réfléchir à l'avenir de l'Europe, on ne peut pas le faire rien qu'avec la religion, il faut le faire avec tout le monde. Et ça, c'était le premier point. Et c'est autour de cela d'abord qu'on a pris Avicenne comme patron. Non pas qu'il, ce n'est pas lui qui a pensé le centre vide, hein. Peut-être qu'il en a parlé, je n'en sais rien, mais c'est en tout cas Avicenne que nous avons pris parce que Avicenne est une figure qui passe entre le premier millénaire et le second. Il termine le premier millénaire et il commence le second. Donc ce joint entre 900 et 80 et quelque chose, et 1000 et quelques, rejoignait 1990 où nous étions et 2000 que nous espérions ouvrir. Donc c'est ce même passage qui nous a fait choisir Avicenne, qui a vécu 1000 ans auparavant. Et puis, l'idée du centre vide, ça c'est une idée que je tiens moi, pour l'avoir reçue d'Hans Mysen, avec lequel nous avons beaucoup discuté. C'est lui qui me l'a vraiment expliqué et inculqué en disant, nous sommes réunis autour d'une table, nous avons chacun un point de vue. Il a envoyé l'image de la tarte, lui, je veux dire, quelque part, la tarte avec les quartiers, chacun ayant un quartier, et disant, nous sommes tous tournés vers un centre, mais ce centre ne peut être occupé par aucun d'entre nous. Quelque part, c'est autour de la table que se passe le dialogue, et personne ne peut prendre le pouvoir sur la direction de la table. Donc, le centre doit rester vide. Au contraire, quand on reprend l'image de la tarte, les quartiers sont séparés, chacun est dans son univers, nous sommes séparés par des murs. Remarquez que plus on va vers le centre, plus les murs s'amenuisent. Et au terme, il n'y a plus de murs, il n'y a plus qu'un centre. Et nous, c'est ce vers quoi nous rêvons, nous sommes ensemble, d'aller ensemble vers le centre et s'y retrouver tous. Donc s'y retrouver tous et que les murs soient en quelque sorte abattus. Mais au point de départ, l'idée du centre vide, c'est l'idée d'une table autour de laquelle on discute et chacun emploie des arguments, et non pas des arguments d'autorité, ce sont des arguments de raison, de réflexion, pour dire qu'est-ce que vous pensez à propos de ces fameux quatre domaines, l'État, la culture, les relations internationales, ça veut dire la place de l'Europe dans le monde, et le problème de l'économie, quels sont les systèmes économiques, qu'est-ce que nous pensons du système économique tel qu'il fonctionne. Voilà les choses dont nous voulions discuter.
On voit bien qu'une image ici, beaucoup mieux qu'un concept, permet de parler d'une expérience, puisque finalement, cette attitude, comme la liberté, n'est pas une chose, c'est vraiment une attitude. Et c'est à ce moment-là que l'image peut avoir toute sa force et toute sa pertinence. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'au centre, il n'y a pas, aucune conviction n'a de prééminence. C'est quand même quelque chose qui va à contre-courant.
Justement, c'est justement ce à quoi il faut résister. C'est que chacun, pensant avoir la vérité, veut mettre au centre ses références, en disant « regardez comme j'ai raison, regardez comme ce que je vous dis est juste ». Et donc, en essayant au point de départ de rallier les autres à son opinion, on se heurte à une fin de non-recevoir immédiate. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire un pas en arrière. C'est l'idée de faire un pas en arrière. Laissez un peu les autres, maintenant, dire leur avis. Et donc, dites votre avis. Cependant, retirez-en ce qu'il peut avoir d'absolu. Ne croyez pas que, même si vous pensez avoir la vérité, ne pensez pas dans ce dialogue que vous devez l'imposer aux autres. Laissez-les un peu se prononcer. Et comme disait quelqu'un, si nous arrivons chacun avec nos questions, peut-être que d'abord nous constaterons que nos questions ne sont pas communes. Comme disait quelqu'un, nous ne sommes pas du même monde, nous ne sommes pas du même temps, nous ne sommes pas contemporains. Nous avons chacun des questions qui remontent dans le temps et, auxquelles nous espérons répondre, mais qui sont des questions différentes. Mais il serait étonnant qu'avec le temps qui se passe et les discussions qu'on peut avoir, ne naissent pas finalement une question nouvelle à laquelle nous ne pensons pas, qui sera une question commune et à laquelle nous pouvons nous attacher. Donc c'est l'idée que on ne reste pas simplement sur des positions établies en écoutant poliment les autres, mais on échange avec l'espoir que quelque chose, qu'une porte s'ouvre quelque part vers quelque chose d'autre, qui sera le résultat de la confrontation.
Ce qui me plaît là-dedans, c'est que finalement, chacun peut réellement vivre ses racines et nous n'avons pas le même monde, mais nous avons vraiment chacun nos racines. Et puis, il y a ce passage avec la modernité finalement, parce que le XVIIIe siècle, Kant notamment, ne va pas dire autre chose que le fait que personne ne peut parler de façon péremptoire et définitive et de façon universelle. Je crois que ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi l'ouverture vers la question nouvelle. Et nous allons aborder la chose après une pause musicale. Cette émission sera baignée par la musique de Tchavolo Schmidt, autrement dit du jazz manouche. Et finalement, ce qui compte, c'est vraiment, à travers tout cela, poser des questions nouvelles. Nous sommes toujours en train de parler avec notre invité, Jean-Mathieu Loctaine, du centre vide, cette notion qui a fait les beaux jours du dialogue interconvictionnel il y a déjà maintenant quelques années, et de cette notion qui est probablement, qu'on a mise sous le patronage d'Avicenne, qui a vécu il y a à peu près 1000 ans, à ce tournant du 10e et 11e siècle, comme nous vivons nous aussi un tournant. Et finalement, ce qui compte, c'est de poser des questions nouvelles, et j'aime la citation de Isabelle Stengers, qui nous invite à construire une pensée à la hauteur de ce qui nous arrive. Et c'est peut-être ça, justement, qui a été un peu le fil rouge de votre action, construire une pensée à la hauteur de ce qui nous arrive dans la rencontre et peut-être même la confrontation.
Oui, il ne faut pas avoir peur de cette confrontation. Donc, si nous sommes assis à la même table, ce n'est pas pour arriver à une petite soupe que chacun nous puissions consommer sans problème. Les conflits peuvent être graves et les oppositions très nettes. Donc c'est une confrontation et c'est ce que l'on vit, c'est un consensus qui n'échappe pas à cette confrontation. Donc il faut savoir que dans la philosophie actuelle, on parle beaucoup du consensus par recoupement. C'est-à-dire, voyons un petit peu ce que nous avons de commun. Et en partant de ce que nous avons de commun, on va essayer d'arriver à un consensus où on fera en quelque sorte une morale universelle. C'est un peu la tendance que Hans Küng développe. Mais en réalité, le grand problème de cette démarche, c'est qu'elle arrive à une abstraction très générale, à des vérités universelles qui sont en fait universelles, mais finalement qui signifient plus grand-chose, parce qu'elles sont tellement universelles qu'elles ne correspondent plus à une réalité suffisamment prégnante. Donc la question était de rester chacun avec sa conviction, ne pas avoir peur d'affirmer sa conviction, ne pas avoir peur du conflit et de la confrontation. Et c'est pourquoi la recherche du consensus passait par la confrontation et non pas par une recherche de valeurs communes. En plus de ça, ce à quoi nous sommes arrivés, et ça c'est un schéma très très important à comprendre, c'est que il ne faut pas garder l'image de l'unité et uniformité. Il ne faut pas garder l'idée, l'âme de l'Europe, j'en pose cette image un peu spéciale, mais l'âme de l'Europe, ce n'est pas une jolie femme qui va rallier tous les suffrages. Ce n'est pas Miss Europe. C'est quelque part une autre image qu'il faut. Il y a une diversité, et cette diversité reste conflictuelle. Il y a un désaccord, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ne fût-ce que d'abord, le point central, c'est que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ces deux questions, cette question-là, a des réponses très différentes, avec des implications pour l'organisation de la société très différentes. Donc, il y a un désaccord. Ce désaccord n'empêche pas la fondation d'une rencontre et d'une réflexion. On peut très bien n'être pas d'accord au point de départ, et accepter ce désaccord et continuer le dialogue. Donc c'est ce que nous avons appelé le désaccord fondateur. C'est-à-dire, n'allons pas plus loin, n'essayons pas de chercher un accord au-delà du désaccord. Non, il y a des choses qui sont irréductibles et qu'il ne faut pas se cacher. Et donc l'image n'est pas la jolie femme, elle est plutôt la famille, et je dirais même la famille déchirée, parce que ce n'est pas une famille simplement divisée, c'est une famille qui s'est déchirée, parce que chacun avait l'idée d'une seule unité, là, quelque part, de cette âme de l'Europe. C'était une âme de l'Europe. Mais cette âme de l'Europe, on ne la concevait pas justement comme un dialogue conflictuel. On la concevait comme, quelque part, une statue auquel se rallierait tous, auquel on rendrait tous hommage. Ce n'est pas ça. Donc l'idée du désaccord fondateur est une idée qui doit remplacer, quelque part, cette unanimité que beaucoup cherchent, et qui est introuvable, et qui n'est pas... Enfin, la liberté de l'homme n'est pas liée à une uniformité, la créativité donne cette diversité. Et cette diversité, c'est ça la richesse. Donc voilà, les deux notions de cette réflexion, de cette confrontation, de chercher un consensus par confrontation, et d'en arriver à un moment à la constater un désaccord, qui n'est pas du tout le terme de la discussion, mais qui peut être quelque part, un point final d'une recherche, on constate le désaccord. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'État? Qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'économie? Cela étant dit, la grande déception que nous avons eue dans la question de la Constitution européenne, dans le débat sur la Constitution européenne, on a voulu, tous les constituants, enfin ceux qui ont rédigé la Constitution et toutes les commissions, ont voulu mettre les valeurs au point de départ. Et puis, évidemment, ils se sont tout de suite déchirés. C'est bien le signe que, oui. que ce que nous disions était juste qu'il y a un désaccord fondateur. Et quelque part, ce désaccord a été voilé. On a voulu trouver des formules apaisantes, ou enfin qui finalement ne signifiaient plus rien du tout, au lieu de dire ce que nous aurions voulu qu'on dise dans la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord. Disons-le tout le début. Sur les valeurs, nous avons des valeurs conflictuelles. Mais ça ne nous empêche pas de nous rencontrer, de nous respecter et de travailler ensemble. Donc, l'intérêt, c'est que ce désaccord est voilé maintenant. L'intérêt était qu'il apparaisse. Que quelque part, comme dans la tradition juive, quand l'enfant demande à son père « Comment se fait-il qu'on célèbre aujourd'hui la Pâque ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et le papa répond que l'enfant, voyant, lisant la Constitution, commençant la Constitution, « Tiens, on n'était pas d'accord, et pourtant on avait quelque chose. » Ah oui, tu vois, et alors on peut expliquer à l'enfant qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre au départ, mais qui est très important en Europe, c'est que l'Europe est un lieu de discussion, et de discussion très vive, et de discussion interminable, parce qu'on n'a jamais fini d'expliquer pourquoi on ne croit pas en Dieu, ou pourquoi on croit en Dieu. Parce que c'est... Il n'y a pas de preuves, bien sûr, mais toute l'expérience est très riche d'expliquer pourquoi on pense comme on pense.
Absolument. Et finalement, ça rejoint un petit peu la grande idée d'Edgar Morin dans son livre « Penser l'Europe », où il dit que tout en Europe est tension.
Voilà.
Effectivement. Et que c'est dans la tension qu'il y a une richesse un petit peu, mais ça c'est l'image de la voûte, hein, de la
voilà.
voûte qui de gauche à droite sur des piliers et puis s'arc-boute évidemment et c'est bien cette tension qui fait tenir la...
Qui fait tenir, qui fait tenir l'ensemble, c'est ça qu'il faut voir.
Oui,
ça c'est très très important. L'idée de la voûte, on l'a aussi employée, c'est cette voûte qui ouvre l'espace aussi, hein. Elle
Absolument.
Ouvre l'espace,
oui.
et en s'appuyant les uns sur les autres, alors que les tensions sont contradictoires. Enfin bon, elles sont équilibrées.
Voilà encore une image, l'image de la voûte. C'est le moment de faire une autre pause musicale. Nous sommes toujours en train de parler à partir du centre vide, de cette image du centre vide, et puis nous avons aussi rencontré cette image de la voûte dans la construction européenne, cette image de la tension, cette image du conflit fondateur, du désaccord fondateur, c'est une très très belle image. Et on sent à travers ces images justement que tous ceux qui ont participé à cela, et peut-être aussi notre invité Jean-Mathieu Loctaine, a une expérience humaine.
Oui, l'expérience à propos, pour revenir avec cet épisode de la Constitution européenne, les constituants, enfin ce groupe, cette commission qui avait été chargée de trouver une rédaction, avait fait appel à tout le monde. Avec les moyens actuels, les mails, il n'y avait aucun problème. Et donc, on a fait appel à tout le monde pour formuler les choses telles que nous les vivions, pour que ça puisse paraître dans une constitution. Et je me souviens, nous avions nous aussi éventuellement pensé à faire de la rédaction de certains des trois premiers articles, surtout c'était les trois premiers articles qui étaient intéressants. Et nous sommes arrivés avec des rédactions en nous disant « Tiens, ce sera bien, ça va passer ». Et nous avons été confrontés avec le président qui est arrivé avec une masse d'un millier de pages, avec des fax qui venaient de tous les pays, de tous les partis ou de tous les groupements qui étaient intéressés par l'Europe. C'était fabuleux. C'était d'autant plus fabuleux que les différentes façons de s'exprimer étaient fascinantes. Il y avait des formules qui ralliaient tout le monde tout de suite. On dit ça c'est vraiment bien. Ça c'est une formule qu'on devrait retenir. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que de se mettre autour de la table et de convoquer chacun à dire ses pensées, il y a des choses nouvelles qui surgissent et des formulations qui sont vraiment consensuelles et qui vont au-delà des accords de base. Et c'est ça qui était tout à fait étonnant dans cette démarche. Donc la Constitution finalement n'a pas abouti, bon ça n'a pas d'importance parce que c'est quand même un processus qui va prendre encore du temps. Ce qui était étonnant déjà, c'est qu'on y pensait à faire une Constitution à ce moment-là. Laissons encore passer 10-15 ans et on retrouvera le même souci, on va le faire. On est un peu dans un moment de crise ou de déprime, mais ça va revenir et on fera à ce moment-là l'attention. Mais la Constitution elle-même était une occasion extraordinaire d'éprouver cette diversité à la fois des opinions et des expressions de valeurs qui rejoignaient les intentions de tous. Que ce soit des socialistes, des libéraux, ou des agnostiques ou des croyants, il y a une façon de parler où on se dit « Ah, ça c'est juste, ça sonne juste ».
Et c'est notre identité européenne.
Et c'est notre identité européenne, oui. Voilà.
Et c'est là que l'on peut parler d'un esprit européen. Est-ce que nous pouvons, sans faire violence aux mots, parler d'esprit et peut-être de spiritualité ?
À partir du moment où on s'accepte différent, ce qui est l'essentiel évidemment, le désaccord devient tout à fait supportable. Dans la mesure où on ne s'énerve pas de désaccord, mais dans la mesure où au contraire, on trouve ça tout à fait normal, et on respecte l'autre en disant, si vous voulez, une démarche que nous vivons nous en Belgique souvent, c'est que plusieurs sont persuadés qu'il y a des opinions qui vont disparaître. Alors bon, que tout le monde deviendra athée ou que tout le monde... Non, il y a une façon de vivre sa foi ou la non-foi qui est beaucoup moins agressive et qui est beaucoup plus respectueuse. C'est une question fondamentale, mais on peut, quelque part, avoir là-dessus des avis différents tout en pouvant se rencontrer et discuter réellement, en profondeur, d'autres sujets. Enfin, de sujets de vie. Et donc voilà, ça c'est la naissance alors d'une spiritualité nouvelle. C'est en ce sens que je disais, autour de la table, nous ne restons pas avec des opinions conflictuelles, avec des opinions divergentes. Nous entrons après dans un dialogue où on trouve quand même vraiment des grandes sources de lumière. Vous dites point de repère, j'ai repéré ça au point de départ, où il y a vraiment des points de repère. Je donne un cours d'éthique et je suis frappé j'ai commencé mon cours en disant, écoutez, moi vous parlez de morale, alors qu'en réalité cette morale n'est pas du tout respectée aujourd'hui et que l'on constate les conséquences dans le refus de normaliser ou d'établir des normes. On a laissé librement les choses se passer et on arrive à des catastrophes, les crises qui sont en cours. Je disais, donc alors à ce moment-là, on est un peu désespéré de réfléchir à la morale, ça ne sert quand même à rien. Si la morale sert à quand même voir ce qu'il faudrait faire et ce que l'on peut faire à une courte échelle, mais à un niveau. Je veux dire que la morale dans les affaires, bien sûr, n'est pas respectée par certains, mais ceux qui la respectent parviennent à créer des lieux où il fait bon vivre et où on a le sentiment de s'épanouir vraiment. Et où on a envie de dire, mais enfin, regardez un peu, il y a moyen de s'entendre, cessons ces querelles stupides et cessez de ne voir que l'argent. Voyez un peu qu'il y a dans le partage un bonheur et une façon de pouvoir vivre qui est tout à fait passionnante. Donc, si vous voulez, le désespoir qu'on peut avoir de la morale en disant, bon, ben, ça ne sert à rien, ils font quand même ce qu'ils veulent, est contrebalancé par le fait que le fait d'avoir des repères et de voir un chemin est très important. Et donc, dans toutes ces discussions que nous avions, c'était ça, de trouver des chemins qui ouvre vers une perspective nouvelle, qui ouvre vers une acceptation mutuelle de chacun.
J'ai l'impression qu'ici, on touche deux points fondamentaux et puis deux termes tout à fait intéressants. Vous êtes en train de parler des fondements, de la fondation, s'accepter comme différent. Vous l'avez plusieurs fois développé. Et puis, c'est finalement le magnifique mot, la reconnaissance. Pouvoir se reconnaître soi-même et pouvoir reconnaître l'autre, être reconnu véritablement et laisser à l'autre vraiment exister dans sa différence.
Jean-Marc Ferry, qui nous a beaucoup inspiré surtout pour la réflexion sur l'État européen, insiste beaucoup sur le fait que la discussion n'est pas le dernier mot. Dans la discussion, on en arrive à un moment où mes arguments, qui me persuadent, moi, je constate qu'il ne persuade pas l'autre. Et les arguments que lui développe ne me persuadent pas moi. C'est un phénomène qui fait qu'on tourne en rond dans certaines discussions, chacun répétant ad libitum ce qu'il a pensé. Il dit, au-delà de la discussion, et à un moment donné, quand on voit que les arguments n'ont pas le même impact sur l'autre que sur moi, on rentre dans une autre démarche qui est une démarche reconstructive. On reprend le problème à la base. Pourquoi un argument que tu développes te paraît déterminant et moi pas? D'où vient que pour toi il te paraît déterminant? Et on retourne alors, avant la discussion, au fondement de l'expérience qui fait que l'autre a mis au point cet argument. Et on découvre, ah, de fait, hein, si tu penses comme ça, si c'est comme ça que tu as vécu, je comprends que tu développes cette idée-là. Mais moi, je n'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu comment? Ah ben alors, moi, je vais t'expliquer. Et ça, c'est la période où l'on se reconnaît, au-delà du conflit des idées, dans quoi s'enracinent ces idées? Dans quelle expérience s'enracinent ces idées?
Toute l'épaisseur de l'expérience.
Voilà. Et c'est retrouver toute l'expérience. Parce que, si vous voulez, pour envoyer des concepts philosophiques, il y a l'individualité doit se dépasser dans un certain universel. Mais l'universel doit se dépasser dans une réelle singularité. Il y a les valeurs vécues par certains qui sont différentes des valeurs vécues par d'autres. C'est les mêmes valeurs. C'est un peu l'exemple dans l'histoire chrétienne qu'il peut y avoir entre les franciscains et les dominicains. Ils ont conçu leur vie avec une synthèse autour de valeurs. C'est les mêmes valeurs, mais c'est présenté, c'est différent. C'est très très différent.
Oui, c'est chanté dans une autre tonalité. Ah, si
enfin,
on peut
pourquoi vous êtes obsédé comme ça par la pauvreté? Ben, écoutez, oui. Si vous n'êtes pas, ça n'a pas de problème. Hein. Oui, oui. Mais la franciscaine, on est de fait obsédé par la pauvreté. Pourquoi? On vous explique que mon père était commerçant et voilà. Donc, c'était cette dimension de la reconstruction, c'est-à-dire d'accepter de déconstruire son propre univers, d'en voir la fragilité. Mais d'en voir la fragilité sans en voir l'occasion d'une attaque de l'autre qui va profiter de la fragilité. Mais non, parce qu'il lui-même sait qu'il est aussi fragile. Et donc, cette époque cette étape de la reconstruction est capitale.
Donc nous sommes vraiment dans le terrain, non pas de l'idée, du concept, mais véritablement de l'épaisseur, de l'expérience.
Oui, du concept sorti de l'expérience, parce que c'est le concept. Oui. La discussion, il ne faut pas faire une reconstruction qui fait l'impasse sur l'argumentation. Non, on ne fait pas simplement, on ne fait pas de nouveau du récit ou du mythique. Mm-hmm. On essaye de voir d'où est sorti le concept et sa limite. Pour voir que, de fait, on pouvait, d'autres expériences, sortir d'autres concepts. Et donc, ah, bon, alors comment on va faire maintenant? Et ce comment on va faire maintenant, à ce moment-là, commence vraiment une étape toute nouvelle.
Une étape toute nouvelle, et qui est en tout cas marquée par du respect. Nous allons faire une pause musicale. Thank you. au-delà de cette confrontation, au-delà de ces conflits fondateurs, de ce désaccord fondateur, eh bien, nous sommes vraiment ici en train de découvrir qu'il y a moyen. Qu'il y a moyen de vivre une étape toute nouvelle, l'étape de la reconstruction, de la refondation. Et je pense que c'est une étape extrêmement importante.
Oui, j'avais un ami qui est dans le monde du théâtre et qui m'attirait mon attention sur le fait que dans nos sociétés diverses, nous manquons totalement de rites, de ritualisation de notre vie commune. On a besoin de fêtes, on a besoin de s'exprimer. Il y a à Bruxelles une chose qui est étonnante, qui moi m'a fasciné, qui est, c'est la Zinneke Parade. Voilà une fête qui ne célèbre pas des événements passés, mais qui dit, nous allons faire un cortège, pensez à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie d'annoncer dans l'avenir? Qu'est-ce qui se passe, qui vous touche et qui... Avec deux règles qui sont élémentaires et qui sont de fait très très bonnes pour la créativité. Pas de haut-parleur, pas d'amplificateur de voix, on ne va pas faire des trucs, et pas de moteur. Maintenant, tout le reste, vous pouvez crier, avoir des tambours, faire tout le bruit que vous voulez, tous les déguisements que vous voulez. Tout. C'est une manifestation tout à fait étonnante. Tout à fait étonnante, parce que c'est vraiment projeté vers l'avenir. Ce sont tous des jeunes qui font ça, qui imaginent le monde, alors avec du bon et du mauvais, bien sûr, il y a des trucs stupides et des trucs vraiment très très intéressants. Il y a surtout une poésie incroyable, il y a des choses qui sont proposées, qui sont vraiment formidables. Et puis, bon, mais donc, c'est un espèce d'essai, c'est une nouvelle façon, parce que ce genre de procession, ce sont des nouveaux rites. Ce sont des rites qui sont ouverts sur le passé. C'est tout à fait différent de l'homme gagne. Hein. L'homme gagne où on se souvient du passé, et puis bon, on se rappelle ce qui a fait la Belgique, et ce qui a fait Bruxelles, ou bien ce qui a fait notre ville.
C'est l'émergence du nouveau, vraiment.
C'est l'émergence du nouveau.
Oui, tout à fait.
C'est l'émergence du nouveau. Et l'idée de chercher des nouveaux rites est très importante et très très difficile. Parce que faire des gestes qui nous rassemblent, ça touche à des gestes qui nous constituent. Je veux dire que, bon, par exemple, pour nous, chrétiens, il y a la messe, et la communion est un moment important. Mais la communion est quelque chose qui est beaucoup plus que la communion sacramentelle. La communion, c'est un terme que... Or, un rite vise à la communion. Nous avons fait une célébration interconvictionnelle, où chacun avait un moment pour exprimer ça. On a fait ça au Cirque Royal, il y a 7-8 ans. C'était tout à fait étonnant, parce que chacun ayant exprimé, ayant dit, ayant fait un rite quelque part dans lequel il invitait les gens à entrer, on a terminé, la scène étant vide, par une femme venant au milieu avec deux ou trois petits pots pour faire la cérémonie du thé. Et donc elle a fait le thé au milieu, là, et puis se sont approchés des jeunes garçons et des jeunes filles, avec un plateau et des verres, et elle a rempli, on a rempli les verres, et puis on les a distribués. Et on a terminé la cérémonie par chacun descendu, et on s'est retrouvés tous là à partager le thé. C'était tout à fait intéressant, mais évidemment ça n'a aucune racine, c'est quelque chose qui est... Mais ce sont des recherches vers des nouveaux rites, vers des idées, comment va-t-on exprimer notre solidarité tout en respectant nos différences? Sur quoi allons-nous pouvoir nous exprimer en commun, parce que c'est quand même ça qu'on cherche aussi, hein, tout en respectant ces conflits, ces désaccords fondamentaux qui cessent d'exprimer. Par exemple, je me souviens que quelqu'un nous avait reproché d'avoir lu un évangile, on avait lu un texte d'une épître de saint Jean, et ça l'avait choqué. Vous venez ici pour proclamer votre foi. Ben, écoutez, c'est une célébration interconvictionnelle, chacun est libre de dire ses convictions, et chacun a à respecter les autres. Donc voilà, c'est un élément essentiel. Et c'est en ce sens-là qu'on retrouve toujours le concept du centre vide. On a toujours envie de mettre au centre quelque chose qui soit unificateur. Et ça ne va pas. Parce que quelque part, bon, alors voilà, ça c'est l'intérêt du centre vide, bien sûr, c'est de respecter les convictions de chacun, et c'est d'essayer de trouver autour de la table une conviction commune qui permette de sortir de la salle heureux, épanoui, non pas amer, non pas pessimiste, ou, mais au contraire, tout à fait optimiste. Parce que, vous voyez, Kant, vous l'avez rappelé, a changé les choses. Il a renversé, on était devant la nature, on était face à des objets, et puis brusquement, il a renvoyé au sujet. Par un petit élément, je ne sais pas, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, ça m'a éclairé, Kant a remplacé la chose par la représentation. Il dit, nous avons une représentation. C'est-à-dire que la chose n'est pas simplement une chose comme ça, c'est nous qui la construisons, donc il y a quelque part. Mais avec ça aussi, il a fait envahir la pensée de la créativité. À partir du moment où c'est moi qui crée en partie l'objet, à partir de ce moment-là, on ouvre une créativité fabuleuse. Mais la créativité peut être très diverse. Comment va-t-on garder l'unité ? Dans le respect mutuel. Et donc, sans vouloir ramener tout le monde en dessous d'une cloche où on dit « attention, ça on ne peut pas faire ». Donc ça, c'est l'ouverture vers des choses nouvelles. C'est rendre à l'homme ce qui est le fondement même de sa pensée, de sa liberté, c'est la créativité. Nous sommes à l'image de Dieu, dit-on dans la Bible. Ben, Dieu est créateur. Nous sommes créateurs à l'image de Dieu. Et on ne doit pas simplement reproduire des réalités, reproduire le passé. On doit trouver des nouvelles formules, trouver des nouveaux... Enfin, ce nouveau qui est intéressant, non pas parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il est créatif.
D'ailleurs, on est en plein dynamisme biblique.
Tout à fait.
Dieu invite Abraham à aller vers lui-même.
Voilà.
Et à aller vers lui-même.
À aller, à partir.
Oui, oui, oui.
À partir du lieu où il est, oui. Vers lui-même, vers, oui, et vers, et, mais vers du neuf aussi, hein,
oui.
Qui va se créer lui-même.
Oui, et Dieu se définit lui-même, je suis celui qui...
Suis, c'est qui je suis.
Je suis qui je suis. Et voilà, il y a donc ce dynamisme fondamental. Et puis alors, il y a cette belle image aussi du Tzimtzum où les Juifs insistent sur le fait que Dieu se retire pour...
Voilà.
Voilà. Et ça, justement, c'est tout...
Dieu fait deux pas en arrière pour laisser l'homme...
Oui.
Et l'homme doit faire 3-4 pas en arrière pour laisser les autres, et l'Église catholique en particulier.
Oui.
C'était la première démarche que nous avions faite à Vicenne, c'était de dire, vous savez, il est intéressant de faire quelques pas en arrière pour laisser un peu la place aux autres.
D'accord.
Et c'est ça l'intérêt du centre-vide, évidemment, c'est se faire ce pas en arrière qui laisse alors la créativité s'exprimer.
Et on voit très très bien ici que le centre-vide, que le vide n'est jamais du rien, c'est le lieu du sens, justement. C'est le lieu où moi je peux apporter le sens à partir du moment où il n'y a pas un encombrement ou un envahissement.
C'est le lieu qui permet au sens de s'exprimer.
Oui.
C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas mettre dans ce lieu quelque chose.
Oui.
Il reste vide.
Oui, il reste vide, mais...
Parce que si vous mettez le sens...
Chaque homme peut apporter à l'occasion, peut-être.
Non, parce que là, vous risquez la soupe.
On risque la soupe.
Si chacun amène les poros, les carottes et les pommes de terre, alors on fait une soupe. Mm-hmm. Non, quelque part, il ne faut rien amener. Mm-hmm. Il faut rester sur sa position, mais il faut se rencontrer. C'est au niveau de la rencontre elle-même que peut se passer quelque chose. Et qui n'est plus alors de l'ordre de la soupe, qui est quelque part de l'ordre de la... De l'ordre d'une créativité qui respecte l'autre et qui s'affirme soi-même, qui n'a pas peur de s'affirmer dans le respect des autres.
Alors, au lieu de l'image de la soupe, on peut reprendre l'image de la philosophie juive, où la philosophie juive parle toujours de la marge blanche.
Voilà,
il y a à côté d'un texte, marge qui est blanche et qui reste.
Et qui reste blanche.
Et qui reste blanche. Allez. C'est le moment de faire une petite pause musicale.
Voilà. Thank you.
Nous sommes en train toujours de parler du centre vide, ce vide qui n'est pas du rien, ce vide qui est une marge, qui permet finalement d'aborder avec beaucoup de respect, avec beaucoup de reconnaissance, ce que chacun vit, mais aussi ce que vit l'autre. Je crois que ce qui est intéressant, c'est les implications de ce vécu. C'est l'image de la table. C'est l'image de la table, c'est l'image du repas, centre vide, c'est vraiment l'image de la table circulaire. Peut-être bien que tout cela va à l'encontre d'un certain nombre de grandes idées et donc de grandes tendances. C'est finalement ce que vous avez développé ici, Jean-Mathieu Loctaine, c'est finalement le contraire de cet attrait du magique et de l'idole. Finalement, l'homme a vissé en lui-même cet attrait du magique et de l'idole, cet attrait de l'agenouillement, finalement, et de la soumission. Au contraire, ici, c'est ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, c'est bien inviter l'homme à regarder vers l'avenir et à se découvrir profondément créateur.
Et on retrouve le goût de l'agenouillement et du respect. Je pense, moi, que... Je voudrais dire deux choses. Autour de la table, ce qui est intéressant... Et dans la construction de l'européenne, ça se voit. Autour de la table, on se dispute, mais il n'y a personne qui veut quitter la table. Ça, c'est très important. Personne n'a envie de claquer la porte. Parce qu'on se rend bien compte que c'est là qu'il se passe quelque chose et que si on quitte,
on s'exclut.
On s'exclut, oui. Bon. Et donc, il faut rester. C'est une première chose. Mais ça enclenche aussi une dimension d'attente où on retrouve une dimension spirituelle capitale. C'est l'attente. L'attente de Dieu, l'attente des autres, mais l'attente que quelque chose vienne, qui va me toucher aussi, mais qui doit être dit et qui n'est pas encore dit. Donc l'attente est une... Si vous voulez, quand vous parliez du Timsum et que Dieu se retire et laisse l'homme, il attend que l'homme fasse quelque chose. Et c'est une attitude que nous pouvons partager, que les autres aussi fassent quelque chose. Ils sont là, je les écoute, j'en attends de sortir de ma... De mon passé, de mon cocon. Donc, quelque part, c'est quand même l'attitude la plus véritable pour la véritable recherche intérieure, qui n'est pas nombriliste, qui n'est pas essayer de se comprendre moi-même, qui est aussi d'essayer de se comprendre à travers la compréhension des autres, que je puisse me comprendre à travers ce que les autres me font comprendre de moi-même et que je retrouve moi-même dans les autres. Donc c'est toute une... Il y a toute une série d'implications, aussi bien sur savoir qui je suis moi, que de savoir qui est Dieu, qui n'est pas du tout celui qui est l'idole au centre, qui veut tout régler, puisqu'au contraire, il ne revendique rien, il ne veut pas être... Il veut être autour de la table.
Et me laisser dire ce que j'ai à dire.
Et voilà, et me faire dire ce que j'ai...
Oui. Parce que finalement, tout n'est pas dit.
Voilà.
C'est fondamental, ça.
Voilà. Voilà. Et donc, on attend toujours quelque chose qui vienne, mais l'attente de Dieu, l'attente de l'autre, est la dimension la plus fondamentale de ce... Donc, on attend quelque chose des autres. Et donc, quelque part, si on l'attend, ben, ça peut arriver. Et donc, la recherche intérieure est sur une bonne voie à ce moment-là. On trouve des choses nouvelles. Et c'est de fait le contraire de l'idolâtrie, puisque quelque part, on n'a pas à se soumettre à entrer dans une logique. Ça dément l'idolâtrie de l'argent, toutes les idoles qui nous menacent toujours. Et ça nous ouvre à l'attitude véritable de la prière. C'est-à-dire que si quelque part nous restons un pas en arrière et nous écoutons, écouter, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans l'attitude de la prière. Donc voilà, je pense que ce concept, cette image de centre vide, cette image de la table autour duquel se passe quelque chose et où on retrouve le Christ, non pas au milieu, mais à côté de moi, voulant participer à notre vie quotidienne, c'est de fait très important. C'est une chose qui a été développée jadis, je vais aller rapidement faire allusion, vous me permettez, c'est un peu ma marotte pour le moment. C'est une chose qui a été développée par d'un Scot jadis, qui était en conflit avec saint Thomas. Saint Thomas insistant beaucoup sur la rédemption et sur la nature et sur la nouvelle création que représentait la résurrection. D'un Scot qui n'était pas saint, mais que Jean-Paul II vient de béatifier. C'est très étonnant, je ne sais pas bien pourquoi il a fait ça, Si, je me doute, c'est parce qu'il disait beaucoup de bien de la Sainte Vierge et de l'Immaculée Conception et de l'Assomption, et que Jean-Paul II, à ce point de vue-là, était touché. Mais donc, il avait toute une conception où il expliquait que Dieu savait bien qu'il y aurait la faute. Ce n'est pas si important. Mais ce que Dieu voulait, c'était de venir vivre avec nous. Et c'est l'image, si vous voulez, deux images, l'image du sauveur qui va chercher quelqu'un qui se noie, qui le sort de l'eau. Quel rapport le sauveur a-t-il avec sa victime, enfin avec l'ex-victime, avec celui qui voulait se suicider? Ou l'homme qui se promène et qui rencontre d'autres hommes qui sont attablés et qui jouent aux cartes et qui disent « Est-ce que je peux jouer avec vous ?» Et dans l'Évangile, il est dit « J'ai joué de la flûte et vous n'avez pas joué avec moi. Vous n'avez pas voulu danser. »
Vous n'avez dansé avec moi. Absolument.
Donc c'est ça aussi que Jésus dit. Il ne dit pas « Je suis venu vous sauver ». Il dit « J'ai joué de la flûte, je voulais jouer avec vous, et vous n'avez pas voulu danser. C'est incroyable, vous êtes quand même de drôles de bons hommes. » Mais donc, cette attitude de respect, d'intérêt pour la différence, pour la créativité de chacun, cette attente de quelque chose, est une dimension de la vie qui est extrêmement révélatrice de ce qu'est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il n'a pas envie de nous sauver. Et puis, ce n'est pas tellement important. Je suis frappé que Saint-Pierre, après la résurrection, qui devait être dans ses petits souliers, parce qu'enfin, c'était quand même deux jours avant qu'il avait trahi, qu'il avait vachement trahi, c'était grave quand même, non? Il ne faut pas sous-estimer la faute de ce Pierre. Et quand Jésus le voit, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Ouf! Quel soulagement Pierre a dû éprouver quand Jésus lui a dit « Écoute Pierre, tu es quand même un... Je t'avais prévenu. » Et puis il l'aurait culpabilisé, comme moi j'aurais fait. Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu ? » Oh, enfin, ça s'est montré vraiment la dimension totalement autre que ce qu'on peut attendre. Et donc, ce qui intéresse Dieu n'est pas d'être dans la dimension du sauveur qui a sauvé les gens et dont il faut vraiment se féliciter de l'initiative, il faut lui donner une décoration. Il est celui qui vient jouer aux cartes avec nous.
C'est ça. Il y a quelque chose de tout à fait inattendu, finalement.
Tout à fait,
évidemment. Et alors, finalement, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu attend que nous jouions de la flûte. Dans la tradition juive, on dit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme lui raconte des histoires.
Voilà.
Je crois que c'est ça.
C'est
et finalement,
vraiment ça.
Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est Jean Kelevitz, il a écrit un magnifique livre sur la musique. Et il dit quelque part, à la fin de son livre, il y aura toujours tout à dire, tout à chanter, tout à peindre, tout à danser. Parce que véritablement, c'est l'homme qui peut ajouter à toutes les beautés du monde. Je crois que c'est vraiment ça que nous avons pu dire à propos du centre vide. Et malheureusement, tout doucement, notre entretien touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup, Jean-Mathieu Loctaine, de vous être déplacé pour venir nous parler de tout ceci. Émission autour du centre vide, émission d'hommage à Hans Missen. Je profite encore de ce petit moment d'antenne pour signaler que le centre de recherche et de rencontre, le CRR de la rue Puisensoc, numéro 63, organise toute une série de choses. Il y aura une nouveauté, nous avons parlé de nouveautés, eh bien, il y a une nouveauté à partir du jeudi 3 mars, les premiers jeudis de chaque mois, à 19h, il y a un café philo. Un café philo parce que finalement, on rencontre partout, tout le monde, les gens se posent des questions et se mettent tout autour d'une table pour poser des questions. Je crois que cette annonce qui tombe vraiment bien avec le sujet de l'émission. Si certains d'entre vous souhaitent quelques informations, un numéro de téléphone, le 04 342 57 76. Je vous remercie.
J'espère qu'on a donné quelques points de repère, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
À coup sûr. Encore un grand merci.